Et le journal, c'est avec Cécile Bideau. Bonjour Cécile.
Bonjour. Ryanair au ralenti aujourd'hui. En cette période de vacances, la compagnie aérienne fait face à une grève des pilotes dans plusieurs pays. Si votre voyage est annulé, avez-vous droit à une indemnisation? Réponse dans un instant. Les roquettes palestiniennes et les bombes israéliennes se sont tues temporairement à Gaza. Une trêve vient d'être signée. Un court répit pour les habitants en proie au désespoir. Les tentatives de suicide se multiplient. Témoignages à suivre. Les recherches reprennent ce matin pour tenter de retrouver deux hommes disparus après les orages dans le Gard et en Corse du Sud. Dans le grand entretien ce matin, Laetitia, on parle de notre sommeil.
Oui, quel est le lien entre sommeil et mémoire? Quel type de dormeur sommes-nous? Qu'est-ce que le jour doit à la nuit, tout simplement? Eh bien, Karim Benchena, neuroscientifique, sera l'invité à 8h20. Il répondra à toutes ces questions, mais aussi aux vôtres. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Dans ce journal, bilan de la loi de confiance votée il y a un an. Découverte de l'hyperloop, train du futur qui roulera à 1000 km/h. Et les maths nous aident à écouter les Beatles. Les pilotes de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair ne veulent plus être des salariés low cost. Ils sont en grève aujourd'hui, grève historique par son ampleur dans cette société irlandaise qui n'a pas la culture de la revendication. Les pilotes irlandais, belges, allemands et néerlandais sont mobilisés pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail. Le mouvement entraîne l'annulation de 400 vols aujourd'hui. Pas moins de 55 000 voyageurs sont concernés, y compris en France. Des voyageurs qui peuvent se faire rembourser leurs billets d'avion, mais que Ryanair n'a pas l'intention d'indemniser. Il existe pourtant une loi en Europe, allègrement contournée par la compagnie. Maxime Debs.
Mathieu, qui devait décoller de Toulouse aujourd'hui pour Bruxelles, a payé 60 euros son billet Ryanair. Son vol annulé en dernière minute, c'est 250 euros d'indemnité qu'il est en droit d'exiger. C'est la loi, c'est ce que dit Bruxelles, mais pour autant...
J'ai reçu trois fois le même email qui m'explique qu'en raison d'une erreur de système, on n'a pas reçu mon message de façon complète. Clairement, j'essaie de me mettre des bâtons dans les roues pour me décourager.
Mathieu tient d'autant plus à ses sous qu'il a dû prendre un autre billet de remplacement plus cher ailleurs entre-temps. Ça fait des frais et c'est pour ça que l'indemnité en cas d'annulation ou de retard de plus de 3 heures peut monter jusqu'à 600 euros. Mais là encore, c'est pas gagné. Morgane Burvin de l'UFC Que Choisir.
Les compagnies sont censées distribuer un petit flyer ou envoyer un mail en indiquant que les passagers peuvent prétendre à cette indemnisation. Étonnamment, elles oublient très fréquemment de le faire, et Ryanair en particulier.
L'an dernier, 9 personnes sur 10 en droit d'être indemnisées n'ont même rien tenté, découragées souvent à tort par les compagnies. Là, pour cette grève, Ryanair invoque une situation exceptionnelle, indépendante de sa volonté.
C'est clairement un coup de bluff, puisque si la compagnie ne peut pas gérer ses pilotes, qui le peut? Là, la grève est imputable aux pilotes de Ryanair, donc c'est à elles de gérer ça avec eux.
L'UFC précise, les passagers peuvent en dernier recours envoyer un courrier à la DGAC, la Direction de l'Aviation Civile, qui peut faire pression pour vous.
Pour l'instant, la trêve est respectée entre le Hamas et Israël. La nuit a été calme après une nouvelle escalade, la troisième depuis le début de l'été. Trois Palestiniens sont morts, un immeuble a été détruit hier dans les raids israéliens, tandis que les tirs de roquettes du Hamas sont allés de plus en plus loin, jusqu'à 40 km de Gaza. Un accord fragile a donc été conclu hier soir sous l'égide de l'Égypte. Cette trêve devrait permettre aux habitants de Gaza de souffler un peu. Des habitants qui souffrent en témoignent cette augmentation des suicides dans l'enclave palestinienne. Reportage sur place de Marine Vlaovic.
Il a les traits du visage tirés et la voix brisée. Abou Mohammad est un rescapé. Acculé par les dettes, ce marchand ambulant a tenté il y a 3 semaines de s'immoler par le feu avant qu'un voisin ne le retienne au dernier moment.
Parfois, tu arrives à un point où tu ne penses plus à ce qui est interdit ou pas. Tu oublies même que Dieu existe. Quand j'ai fait ça, je n'ai pensé à personne.
Parce qu'interdit en islam, le suicide est tabou dans une bande de Gaza gouvernée par le Hamas. Impossible d'obtenir des statistiques précises, le secret est bien gardé par les autorités. Mais les cas augmentent ces derniers temps, remarque le docteur Bassem Abdelwaheb.
C'est en raison de la situation politique, les gens n'ont pas d'horizon, il n'y a pas de travail, il n'y a rien ici.
Et ce psychiatre, qui exerce dans un petit hôpital à l'est de la bande de Gaza, se dit impuissant face au désespoir.
30% des patients dépressifs font des tentatives de suicide et il y a des traitements pour ça. Mais il n'y a pas de médicaments pour celui qui est désespéré parce que sa vie ne peut pas changer.
Un désespoir accru alors que l'enclave palestinienne est plus que jamais à la croisée des chemins entre la paix et la guerre. Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Les Nations Unies demandent une enquête indépendante après la mort d'une trentaine d'enfants au Yémen. Un bus scolaire a été touché hier par un bombardement de la coalition sous commandement saoudien dans la région rebelle de Saada. Michelle Bachelet devrait prendre la tête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'Assemblée générale de l'ONU se réunit aujourd'hui pour confirmer la nomination de l'ancienne présidente socialiste du Chili.
En France, plus aucun département n'est en vigilance orange ce matin.
Mais deux personnes sont toujours portées disparues après les orages d'hier. Dans le Gard, un touriste allemand qui séjournait dans un camping de Saint-Julien de Pérolas manque à l'appel. Sa voiture a été emportée par les flots et l'homme âgé de 75 ans n'a pas été retrouvé. En Corse du Sud, c'est un randonneur de 41 ans qui a disparu. La grêle, la pluie, les torrents de boue, les phénomènes ont été très violents, avec même par endroits des mini-tornades, comme en Moselle. Fabienne D'Angelo est adjointe au maire de Bérennes-les-Forbach.
C'était un film catastrophe qui est défilé sous nos yeux. Toutes les personnes qui sont intervenues se sont rendues très vite compte des dégâts très importants, donc des morceaux de tôle qui volaient dans les airs, des arbres coupés en deux, des branchages un peu partout, le bruit, le vent, l'apocalypse en 5 minutes. On a l'impression que tout a été ravagé, rien n'a résisté. Les pompiers nous ont encore fait remarquer que malgré tous ces dégâts, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés, parce que si quelqu'un avait été dans les rues, alors après c'est 13h de l'après-midi, donc peut-être les gens étaient à table, voilà. S'il y avait du monde dans les rues, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave.
Propos recueillis par Thomas Jean-Georges de France Bleu Lorraine Nord. Les incendies en Californie font une 10e victime. Un pompier est mort hier. L'État est confronté depuis plus de 15 jours au feu le plus important de son histoire. Des battues sont en cours au Japon pour tenter de retrouver Tiphaine Véron. La Française de 36 ans, partie en vacances dans l'archipel, est portée disparue depuis une dizaine de jours. 80 hommes, un drone et un hélicoptère sont actuellement mobilisés dans la forêt de Nikko, où un randonneur dit avoir croisé une femme seule. Après près de 3 mois de grève de la faim, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov est dans un état de santé catastrophique. Ce sont ses proches qui le disent. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va appeler Vladimir Poutine, notamment pour évoquer le cas du réalisateur et scénariste. Publiquement opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie, Sentsov est détenu en Russie depuis 2014, condamné pour terrorisme et il a cessé de s'alimenter il y a 88 jours. Pour Michel Etchaninov, l'un des principaux soutiens en France d'Oleg Sentsov, il y a urgence.
Non seulement il a perdu 30 kilos, il est extrêmement faible, il ne se lève plus, mais en fait il a de l'anémie, son pouls est à 40 pulsations par minute, qui est vraiment faible, et il faut savoir que son cœur risque de lâcher à tout moment. On arrive maintenant dans une nouvelle phase qui est une phase véritablement critique de l'état de santé de Sentsov.
Qu'attendez-vous de ce nouvel entretien entre le président français Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ?
Il est extrêmement important qu'un grand dirigeant d'une grande démocratie puisse essayer de convaincre Vladimir Poutine que c'est peut-être dans son intérêt de libérer Sentsov pour éviter des sanctions possibles, de laisser la vie à Oleg Sentsov. Ce serait un pas très important.
Que peut obtenir pratiquement Emmanuel Macron ?
Ça peut aller d'une promesse de l'aider à l'envoi d'une équipe d'experts médicaux indépendants dans sa colonie pénitentiaire pour évaluer son état de santé. Sentsov n'est plus seulement un prisonnier comme un autre, mais un symbole. Un symbole qui aujourd'hui a une importance mondiale.
Michel Etchaninov, auteur du livre Dans la tête de Vladimir Poutine, joint par Bertrand Galichet. Donald Trump aurait été capable de tweeter « Que la force soit avec toi ». L'administration américaine, par la voix de son vice-président Mike Pence, a annoncé la nuit dernière la création de la force de l'espace. Ce sera la 6e branche des forces armées. Sa mission, dit le vice-président sur un ton guerrier, faire face aux menaces qui pèsent sur la suprématie américaine dans l'espace, notamment les projets chinois et russes qui chercheraient à détruire des satellites américains.
8h09, la suite du journal Cécile Bideau. Cédric Héroux, agriculteur, sauveteur de migrants, va-t-il retrouver sa liberté de mouvement ?
La cour d'appel d'Aix-en-Provence va dire aujourd'hui si elle lève ou non son contrôle judiciaire. Cet agriculteur qui vit près de la frontière franco-italienne vient en aide aux exilés depuis plusieurs années. Il les accueille dans sa ferme dans la vallée de la Roya. Après de multiples ennuis avec la justice, il est aujourd'hui mis en examen, sous contrôle judiciaire donc, ce qui lui est interdit. Dit notamment de quitter la France. Corinne Audouin.
Le 24 juillet 2017, Cédric Héroux est arrêté en gare de Cannes avec 156 étrangers, la plupart originaires du Soudan. L'agriculteur les accompagnait en train depuis Breil-sur-Roya jusqu'à Marseille pour aller déposer leur demande d'asile. Mis en examen pour aide à l'entrée et au séjour de clandestins, il est depuis sous contrôle judiciaire.
L'interdiction de sortir du territoire, d'approcher les gares. Il faut savoir que je suis à la frontière franco-italienne, donc pour aller à Nice, l'endroit le plus direct, c'est passer par l'Italie. Surtout impossible profité aussi d'aller à l'étranger pour continuer un peu mon combat politique et pour parler de la question migratoire. Et j'ai l'impression d'être condamné avant même d'être jugé.
Pourtant, le Conseil constitutionnel vient de consacrer le principe de fraternité qui rend licite l'aide au séjour et à la circulation. Mais en attendant sa traduction dans la loi, la pression sur Cédric Herrou ne diminue pas.
Il y a 5 postes de gendarmes autour de mon domicile, jour et nuit, qui font des contrôles d'identité de toutes les personnes qui rentrent et qui sortent de mon domicile. Ils veulent la peau de Cédric Herrou, ça c'est évident. Mais après, c'est pas très grave. Moi, mon but final, c'est que dans l'ensemble, ça avance.
À l'audience, le parquet a demandé le maintien du contrôle judiciaire au nom notamment de sa mise en examen pour aide à l'entrée sur le territoire, qui reste un délit. Même si l'agriculteur l'assure, il n'est pas allé chercher ses migrants en Italie.
Un an après la loi censée moraliser la vie politique française, il est l'heure d'en dresser le bilan. La loi de confiance visait à tirer un trait sur les pratiques de l'ancien monde. Corruption, petits arrangements entre amis, travail en famille, dépenses opaques de nos élus. Mais elle laisse sur leur faim les associations anti-corruption, Laurence Perron.
Dans le verre à moitié plein, il y a, après le traumatisme de l'affaire Fillon, la fin des emplois familiaux. C'est désormais passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour tordre le cou au conflit d'intérêts, il n'est plus possible de se lancer dans une activité de conseil en cours de mandat. Une obligation de contrôle fiscal, l'instauration d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour des délits comme le harcèlement moral ou sexuel, les discriminations ou encore la fraude fiscale aggravée. Enfin, la suppression de l'indemnité représentative pour frais de mandat entre 5 et un peu plus de 6 000 euros selon la Chambre, alloué pour les faux frais des députés et des sénateurs. Et c'est là le verre à moitié vide. L'indemnité a en fait été remplacée par une avance du même montant. Alors certes, il faut désormais des justificatifs. Exit encore le casier judiciaire vierge ou l'encadrement des lobbies, des engagements pourtant d'Emmanuel Macron. Plus grave, estime le président de l'association Anticor, le verrou de Bercy a été maintenu, je cite, par des élus en marche aux ordres. Le ministre du budget conserve ainsi son monopole pour autoriser les poursuites judiciaires en cas de fraude fiscale. En somme, c'est un début, mais le combat reste à mener.
Laurence Perron, le train du futur s'installe dans le Limousin.
La commune de Droux, 400 habitants au nord de Limoges, va accueillir d'ici un peu plus d'un an les tests de l'Hyperloop, ce train qui doit rouler 3 fois plus vite qu'un TGV. Les responsables de la société canadienne Transpod vont déposer leur demande de permis de construire aujourd'hui. Plusieurs expériences sont en cours dans le monde et donc bientôt une dans le Limousin. Alors d'abord, qu'est-ce que l'Hyperloop, ce train au nom de manège de fête foraine? Sophie Becherel.
Le principe de l'Hyperloop ressemble aux tubes pneumatiques d'autrefois. Il s'agit de faire circuler dans un tube en acier à basse pression des capsules transportant les passagers. Sur un coussin d'air, le frottement minimal avec le tube permet d'atteindre les 1000 km à l'heure, à condition bien sûr de fournir de l'énergie au départ. Le Limousin a choisi Transpod, une jeune pousse canadienne dirigée par un Français, un ancien d'Airbus. Le centre de recherche visera à démontrer que la technologie fonctionne sur 3 km. Dans le désert du Nevada, le milliardaire Richard Branson est plus avancé. Son entreprise, dans laquelle la SNCF a investi, a déjà démontré qu'il était possible de faire circuler une capsule sur 500 mètres. Mais ce n'est qu'un début. L'idée de tous les entrepreneurs est de relier en ligne droite des villes. Cela suppose de poser le tube sur des piliers, un peu comme un gazoduc. Il faut donc des espaces plats et non habités. En Arabie Saoudite, en Inde, d'autres projets sont sur les rails. À Toulouse, l'Américain Dirk Alborn a obtenu la mise à disposition d'un grand entrepôt pour y installer un centre de recherche, ainsi qu'une piste d'essai de 320 mètres de long, mise en service l'an prochain.
Et pour voir à quoi ressemble l'Hyperloop, rendez-vous sur franceinter.fr. L'athlète français Mayedine Mekissi remporte hier la médaille d'or sur 3000 mètres steeple au championnat d'Europe à Berlin. C'est le 5e sacre européen de sa carrière. À suivre aujourd'hui la française Renelle Lamotte en finale du 800 mètres et les qualifications pour le perchiste Renaud Lavillény. Et à la fin, c'est le PSG qui gagne. Le championnat de Ligue 1 de football reprend aujourd'hui. Marseille lance la saison en recevant Toulouse ce soir à 20h40. Pour mettre ce championnat de France sous les meilleurs auspices, le trophée de la Coupe du Monde sera présenté au public dans plusieurs stades, notamment au Vélodrome ce soir. Pas besoin d'être un génie des mathématiques pour connaître le nombre de Beatles. Ils étaient 4 dans le plus grand groupe de pop-rock de tous les temps. Mais les maths sont aujourd'hui utilisées pour savoir qui a vraiment écrit les chansons des Beatles. Car John Lennon et Paul McCartney signaient tous leurs tubes de leurs deux noms, quel que soit celui qui avait tenu la plume. Sur certains titres, c'est évident, mais sur d'autres, il reste une part de mystère que les mathématiques nous aident à lever. Des chercheurs viennent de publier leur étude. Julien Baldacchino. There are places I remember. On my life. Though some have changed, some
En 1965, les Beatles sortent la chanson In My Life, mais après la séparation du groupe, John Lennon et Paul McCartney ont tous les deux déclaré qu'ils étaient à l'origine de ce titre. Pour faire la part des choses, deux chercheurs, Mark Blickman et Jason Brown, ont établi un modèle inspiré de la stylométrie, cette science qui utilise les statistiques pour déterminer qui est l'auteur d'un texte. Ils l'ont adapté à la musique. Ils ont décomposé en tout 70 chansons des Beatles, datées d'entre 1962 et 1966, autour de 5 grands critères et 149 sous-catégories parfois très précises, comme les types d'enchaînement des notes de musique. Avec ce modèle, en analysant ses caractéristiques dans le titre In My Life, les deux chercheurs ont obtenu une probabilité de plus de 98% que la chanson soit finalement signée John Lennon. Voilà qui pourrait aider à éclairer les fans sur la genèse des chansons qui sont parfois des tubes. Lennon et McCartney s'étaient aussi, par exemple, disputé la parenté de Ticket to Ride.
Et jetez un œil sur franceinter.fr, on vous en dit plus sur cette étude vidéo des Beatles à l'appui.
Et bien voilà, allez voir, allez faire un tour sur le site internet de France Inter parce qu'il est vraiment hyper bien fait. Voilà, voilà, je l'ai dit et c'est une promo. Vous écoutez France Inter, merci Cécile Bideau. Prochain point avec la formation, ce sera à 9h. Maintenant, c'est la météo avec Stéphanie Fromentin. Oui. Stéphanie Fromentin, vous nous dites alors, le calme est revenu dans le ciel.
Oui, c'est un peu moins tendu entre les nuages et le soleil. Ils ont trouvé un consensus en se partageant le ciel sur la majorité du pays, une espèce de garde alternée qui laisse un bel espace aux éclaircies. En tout cas pour ce matin, cet après-midi, chacun reprend quelques vieilles habitudes avec une nébulosité plus grise au nord de la Loire, mais des teintes plus lumineuses au sud. Les nuages insistent encore en prenant une résidence plus marquée sur le littoral breton et les côtes de la Manche pour la journée, lâchant parfois quelques averses. De la pluie, il y en aura encore un peu. Elle ajoute son grain de sel sur les reliefs en cours de journée, très léger sur l'est des Pyrénées et les Alpes du Sud, mais encore parfois orageux sur l'île de Beauté.
Et comment vous pouvez me faire dire, Stéphanie Fromentin, que le mercure est lui aussi hyper détendu?
Eh oui, ne nous assommes plus dès le réveil et les valeurs sont comprises ce matin entre 10 et 13 degrés, un peu plus élevées en Occitanie où elles peuvent monter jusqu'à 15 degrés, ainsi que sur le pourtour méditerranéen avec 16-19 degrés jusqu'à 24 degrés en Corse. Dans l'après-midi, ce mercure restera raisonnablement estival en offrant 20 à 25 degrés en général, jusqu'à 28 à 33 sur PACA et le pourtour méditerranéen. Il fera 20 degrés à Longconchon dans le Jura, 22 au Plessis-Robinson, 29 à Avignon, 27 à Lyon, 25 à Mâcon, 23 à Beson, c'est dans le Val-d'Oise, 24 sur le Cap Breton, mais 32 sur le Cap de Brégançon.
Et toujours. Alors voilà pour la rime, mais toujours rien pour Saint-Étienne.
Non.
Vous y penserez pour la prochaine.
Bah oui, en plus c'est les Stéphanois quand même.
Bah voilà.
Stéphanie, voyons.
Voilà. Merci Stéphanie.